Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, nous allons consacrer une partie de notre émission au film Louise, qui est sorti mercredi dernier dans les salles. À cette occasion, le réalisateur Nicolas Ketel et l'interprète principale Diane Rouxel seront nos invités exceptionnels dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé cette semaine, qui seront consacrés à notamment Ainsi Grand Soleil. Elle fait son grand retour dans le rôle de Claire Estrella. Mélanie Modran va tout nous dire. Et puis, c'est la grande finale demain soir de La France, un incroyable talent. Le Platinum Buzzer Timéo Sparking sera avec nous du haut de ses 10 ans. Vous allez voir qu'en tout cas, il en a encore sous la guitare. Et puis, on va également recevoir Charlotte Gassiou à l'affiche de la série Les Trois Brestoises. Ça sera donc vendredi sur France 2 et déjà en ligne sur France.tv. Charlotte viendra également, bien sûr, nous parler de Demain nous appartient. Et puis, en fin d'émission, nous aurons également le grand plaisir de recevoir Mercotte. C'est sa dernière émission qui peut battre le grimoire de Mercotte jeudi sur M6. C'est sa dernière, voilà, et c'est non sans émotion que Mercotte sera avec nous en ligne à la fin de l'émission. Il vient de sortir un très beau livre photo de ses voyages. Denis Brognard revient bientôt également dans Koh-Lanta. Il sera avec nous pour nous donner les premières infos de cette nouvelle saison et nous présenter son très beau livre. Et puis en exclusivité podcast cette semaine, nous aurons le grand plaisir de recevoir Inès Ouchaou et Annabelle Moreno, notamment pour la série Nouveau Jour qui va bientôt faire ses adieux sur M6+. On y revient. Et puis, on aura le grand plaisir de recevoir également l'une des jurées emblématiques de La France, un incroyable talent. C'est Sophie Eldestein qui sera avec nous. Et puis, on aura également le plaisir de recevoir Dominique Fischbach qui a réalisé le très beau documentaire sorti mercredi dernier au cinéma à L'Entend Pas la Moto. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Allez, à même pas 10 jours de Noël. On est ensemble pour fêter déjà tout ça.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film Louise que vous pouvez voir dans les salles depuis mercredi dernier. Son réalisateur Nicolas Ketel est notre invité aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Moi, j'ai été complètement subjugué par ce film que j'ai vraiment adoré, qui est d'une intensité folle, menée par des comédiennes absolument dingues et Diane Rouxel en tête, que j'avais pu découvrir dans La Terre des Hommes. Nicolas, pour planter un petit peu le décor, on va découvrir Marion, qui a une dizaine d'années, qui va être témoin de violence au domicile conjugal sur le nouvel ami de sa maman. Elle va donc fuguer, se trouver refuge chez son père, qui va la faire plus ou moins disparaître disparaître de la circulation et on va retrouver une autre jeune fille 15 ans plus tard, Louise. Mais ce qu'on va vite comprendre en tout cas, c'est que c'est la même jeune fille qui a changé d'identité. Et au détour des réseaux sociaux, parce qu'évidemment 2025, on est tous ultra connectés, elle va tomber sur ce qui est peut-être sa sœur et reprendre, essayer en tout cas de reprendre contact avec sa mère et sa petite sœur qu'elle avait laissée 15 ans auparavant, mais sans leur dévoiler sa véritable identité. Et c'est là tout le contexte psychologique du film qui est hyper intéressant, je trouve. Est-ce que c'est bien teasé, Nicolas, déjà ?
C'est exactement ça. C'est l'histoire d'un jeu de dupes et de mensonges où elle va retrouver la trace de sa mère et de sa sœur et elle va aller à leur rencontre sans leur dévoiler qui elle est et elle va chercher à enquêter sur son propre passé, essayer d'obtenir des réponses à des questions qui la hantent depuis 15 ans et elle va comprendre des choses et notamment des choses qu'elle avait mal interprétées quand elle était enfant. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'une enquête sur soi-même psychologique avec ce thème de l'identité qui revient beaucoup.
Comment est venue l'idée, Nicolas, de ce film et de cette histoire ?
Alors, tout est parti de cette histoire de violence conjugale dont vous avez parlé. Ma mère a connu ces violences-là, donc moi je les ai aussi indirectement connues et je voulais faire un film qui traitait des conséquences de ces violences, mais pas à travers le point de vue de la victime directe, donc de la femme, mais plutôt à travers le point de vue des victimes collatérales que sont les enfants.
Ouais. Les témoins.
Souvent, exactement. Et puis, ils sont aussi assez victimes, pas de la même façon, mais ils sont assez peu représentés au cinéma. Donc, je voulais vraiment faire un film qui traitait de ça et des conséquences peut avoir ces violences sur les enfants. Et à partir de là, tout le film du film s'est déroulé dans ma tête en quelques minutes. Bon, ensuite, ça a pris un an et demi, deux ans d'écriture, mais c'était l'envie première. Ensuite, je voulais par contre ne pas faire un film social, enfin en tout cas purement social, et vraiment faire un film romanesque, un film de cinéma avec partie très assumée de fiction et d'envie mélodramatique, par exemple, dans la dernière partie du film, mais on va éviter de trop spoiler.
Voilà, exactement. Alors, Cécile de France joue la maman, Salomé Adewels joue la petite sœur aussi que retrouve effectivement Louise. Il y a vraiment quelque chose d'assez magnétique dans le personnage de Louise que joue Diane, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par son regard, par son attitude.
Exactement.
C'est assez dingue. On va en parler avec elle dans un instant parce qu'on va l'avoir aussi justement Diane, mais elle est absolument incroyable. C'était une évidence, Diane Rouxel.
Justement, je l'ai choisie par rapport à ça. Moi, je trouvais qu'elle dégageait, dans certains films qu'elle avait fait, elle dégageait quelque chose de très fort. Je me suis dit, si je pousse cette intensité à son paroxysme et que je la rends très intense tout du long, ça peut être très fort, très beau. Et donc, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, voilà, je vais exploiter ce petit truc que j'ai perçu en toi et on va le pousser vraiment à fond. Et c'est un personnage qui est totalement éloigné de qui elle est dans la vie. C'est quelqu'un de très solaire, très souriant,
ah oui,
en permanence.
C'est vrai.
On a travaillé beaucoup de choses. Elle l'expliquera certainement mieux que moi, mais au niveau de la diction, de son attitude, voilà, c'est vraiment un personnage qui est à l'opposé d'elle. Et je pense que c'est ce qui l'a excité aussi dans le projet de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'elle n'est absolument pas.
Alors moi, ce que j'ai trouvé très malin, Nicolas, dans votre mise en scène, c'est vraiment aussi de nous inclure. En fait, c'est un film très inclusif pour le spectateur en salle ou plus tard à la télé aussi dans sa prochaine vie. Mais en tout cas, c'est très inclusif pour nous parce que on a tout le temps l'impression d'être aux côtés de Louise. On a tout le temps l'impression d'avoir cette petite voix et envie de lui parler et de lui dire, allez, vas-y, crache le morceau, vas-y, c'est le moment de leur dire. Et il y a ça, je trouve ça assez magique d'arriver à nous inclure comme ça.
Ouais, l'idée c'était vraiment d'être du point de vue de Louise tout du long du film et de créer un rapport privilégié entre le spectateur et Louise, parce que en fait la caméra est quand même souvent très proche d'elle, et notamment sur les scènes importantes, un peu de révélation, et nous on perçoit des choses que les autres spectateurs ne voient pas forcément, parce que, enfin, pour preuve, j'ai tourné à deux caméras la plupart des scènes importantes du film, et il y avait toujours une caméra assez éloignée du personnage de Louise qui est placé du point de vue du regard de l'autre personnage qui est en face d'elle, et une caméra très proche de Louise. Et en fait, sur la caméra éloignée, celle qui était dans le regard des autres personnages, on voyait assez peu de choses sur le visage de Louise. Par contre, sur la caméra très proche, on voyait absolument toutes les subtilités, l'intensité qu'elle dégageait. Et en fait, au montage, j'ai choisi de garder ça et de faire en sorte que le spectateur puisse voir des choses que les autres personnages à côté ne voient pas. Et du coup, on prend nous vraiment tout ce qui se passe dans sa tête, parce que la caméra était à 3 cm de son visage. Et voilà, on est vraiment les témoins privilégiés de ce qu'elle vit.
Alors évidemment, on va pas dire du tout comment ça finit, même si on imagine qu'il va y avoir une révélation. Enfin, en tout cas, on espère. Hein, on va vous laisser découvrir ça, chers spectateurs dans les salles.
En tout cas, si elle a lieu, elle se produit après un certain temps, parce que l'idée, c'est de poser la question tout du long, est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va pas
bien
dire,
sûr,
jouer un peu sur cette frustration.
C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. En tout cas, un très gros succès au cinéma. C'est dans les salles depuis mercredi. Ne le ratez pas, ça s'appelle Louise, film de Nicolas Quetel. On va avoir Diane Rouxel qui va nous rejoindre dans un instant, mais on va écouter évidemment la bande-annonce. Merci infiniment, Nicolas.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Oh, tu veux pas t'attacher aux gens ? Non mais mon grenier est tout mouillé. Merci Jeanne.
Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? Fais ça toute ta vie.
C'est toi qui chantais là tout à l'heure. C'était vachement bien. C'est gentil, merci. Je pourrais peut-être écrire un article sur toi si ça te dit.
Louise, enchantée. Moi, c'est Jeanne, donc. Maman, c'est Louise. Louise, ma mère. Catherine.
Enchantée.
Enchantée. Tu vas leur dire qui t'es ?
Je suis qui, en fait ? Je sais rien sur moi.
Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne, elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et...
C'est la dernière fois que je l'ai vue.
Il faut pas qu'il te trouve, ma princesse. Tu pourras avoir des gros problèmes avec ce que t'as fait.
Allez, on continue notre spécial Louise. Alors, vous avez entendu la bande-annonce, on vous l'avait promis, elle est là avec nous. Diane Rouxel, bonjour Diane.
Bonjour.
Alors, alias Marion, alias Louise aussi, Marion Petite, qui est jouée par une actrice dont on disait à l'instant le plus grand bien, évidemment. Mais je crois que le réalisateur, Diane, ne tarit pas d'éloges non plus à ton égard. Et c'est vrai qu'on disait, c'est une prestation, franchement, de haut vol. Il y a beaucoup de choses. Tu passes beaucoup de choses par le regard, par les attitudes, par les gestes. Et t'arrives à faire passer énormément d'émotions comme ça. Comment tu t'es préparée à ce rôle de Louise et qu'est-ce qui t'a plu en Louise?
Bah, ça a été beaucoup de discussions autour du personnage avec Nicolas. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a proposé le rôle de Louise en me disant que c'était un rôle qui était aux antipodes de qui je suis. Donc ça m'a bien plu de voir interpréter un personnage qui me ressemble pas trop. J'ai aussi, surtout, en fait, été très émue en lisant le scénario. Et voilà, je trouve intéressant que le film parle pas vraiment des violences conjugales, mais en tout cas des victimes collatérales des violences conjugales.
Et que ça soit un peu le point de départ, effectivement, du film.
Voilà, que c'est ça. Mais que ce soit surtout un film sur la famille. Mais voilà, et j'ai aimé aussi le fait que ce soit un premier film. C'est toujours chouette de faire partie d'une aventure de l'éclosion d'un nouveau réalisateur. Et là voilà, je sentais Nicolas hyper... sûr de lui, il avait son film en tête, il savait précisément ce qu'il voulait pour mon personnage, donc j'avais plus qu'à rentrer dans ce moule qu'il avait préparé pour moi, pour ce rôle.
Alors c'est vrai que Diane, on le disait avec Nicolas il y a un instant, mais il y a une chose moi qui m'a énormément marqué, est-ce que tu l'as ressenti au niveau du tournage? Je trouve qu'il y a une inclusion du spectateur qui est énorme dans ce film et qui nous fait être à tes côtés en permanence. On a vraiment envie d'être la petite voix qui te dit allez, vas-y, crache le morceau, vas-y,
oui,
maintenant.
C'est ça.
Et ça c'est vraiment nous, je trouve ça assez magique que sa caméra à Nicolas ait pu nous inclure comme ça, nous spectateurs. Est-ce que toi tu l'as ressenti aussi sur le tournage?
Oui, parce qu'en fait, bah, déjà, j'ai été filmée très proche, donc on voit tout ce qui se passe sur mon visage, et surtout, en fait, on découvre tout ce qui se passe, on découvre tout avec elle. C'est vrai que j'ai un personnage qui parle peu, mais tout devait se voir sur mon visage. Et d'ailleurs, c'est ce qui était un peu perturbant pour moi, c'est d'avoir un personnage qui porte un masque comme ça, mais qui est complètement saturé. C'est-à-dire qu'elle est toujours à la limite d'exploser, et donc, effectivement, on traverse toutes ses émotions avec elle.
Alors, c'est vrai que Louise, on va la retrouver 15 ans plus tard, en tout cas, qu'elle est fuguée de chez sa maman. Est-ce que tu as pu rencontrer aussi la jeune actrice qui te joue, jeune pour le coup, qui joue Marion?
Oui, je l'ai rencontrée pendant les essais caméra, les essais maquillage, donc on s'est très peu vus, en fait. C'est pas forcément très grave parce que mon personnage a vécu un tel drame qu'en fait, elle devient...
Quelqu'un d'autre.
En fait, elle change, elle devient complètement quelqu'un d'autre. Là où, par exemple, Salomé, elle a vu son elle plus jeune et a travaillé un peu avec elle, là où mon personnage n'avait pas forcément besoin de lui ressembler, puis déjà on se ressemble énormément physiquement, donc c'était ça qui était
physiquement,
très important.
Physiquement c'était dingue, entre Marion et Louise vraiment on y croit complètement que 15 ans plus tard effectivement Marion ait pu devenir Louise. Quelle est la scène la plus marquante pour toi? Celle qui t'a peut-être le plus ému à tourner, qui a été peut-être la plus difficile?
Oh, il y en a eu plusieurs.
Bah, j'imagine.
Je dirais la scène, donc on appelle la scène du crabe, je sais pas si les gens sauront de quoi je parle, je pense, en voyant le film. Bah, les scènes un peu des retrouvailles qui ont été très émouvantes à jouer, même pour nous, on était, je sais que j'ai pas eu besoin de construire une émotion, j'ai vraiment eu des frissons en les jouant avec Salomé et Cécile. On s'est même pris dans les bras.
Salomé et Cécile donnent énormément, C'est vrai qu'il y a vraiment cet échange entre vos personnages qui est très fort.
Ouais. Et puis on s'est bien trouvé avec Salomé, ça fonctionnait très bien, on s'est hyper bien entendu, donc ça aide aussi au jeu quand on sent qu'il y a quelque chose de vrai, quoi. Et puis Cécile, c'est pareil, moi je la connaissais depuis très longtemps à travers ses films, ses interviews, donc il y avait déjà quelque chose de très familier en fait et de doux chez Cécile qui m'a beaucoup aidée aussi à jouer avec elle et l'imaginer comme étant ma mère.
Alors c'est vrai que nous on s'était rencontrés pour le film La Terre des Hommes de Naël Marandin, où tu avais un rôle très difficile pour le coup à tenir, mais qui avait un sens, qui avait vraiment du sens. Là Louise, pareil, il y a vraiment un rôle qui a du sens, avec quelque chose à défendre de très fort, c'est un véritable challenge. C'est comme ça que tu choisis tes rôles, tes projets? Est-ce que faut vraiment que ça soit des choses qui aient du sens?
Bah, c'est jamais très réfléchi, c'est plutôt vraiment l'émotion que j'ai à la lecture du scénario et ma rencontre effectivement aussi avec les réalisateurs. J'ai besoin de sentir leur vision, être d'accord avec leur vision, et là je le sentais très sincère, comme Naël avec le film La Terre des Hommes. Voilà, non, c'est juste parce que voilà, j'ai été hyper touchée et émue en lisant le scénario et ça me plaît toujours d'avoir des personnages qui jouent des espèces de double jeu. Je trouve ça très intéressant.
Vous allez être ému et bouleversé, hein, très certainement. À découvrir Louise, en tout cas. On vous invite à aller le voir au cinéma. C'est déjà dans les salles depuis mercredi dernier. Allez-y, foncez-y dans les cinémas près de chez vous. Vous allez pouvoir en tout cas découvrir ce très très beau film sur ce destin hors du commun de cette petite Marion devenue Louise. Eh bien Louise, c'est au cinéma. Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous. Et puis on te dit à bientôt, j'espère.
Merci à vous, à bientôt.
À très vite.
Tu penses à elle parfois?
Elle te manque pas?
Vous pensez que c'est quoi qu'elle aurait mal interprété?
Soit tu leur dis, et vite. Soit tu les oublies. Encore de bon.
Vous vous êtes pas dit qu'elle pourrait revenir un jour, votre fille? Vous êtes sûr?
Notre coup de cœur ciné est consacré à L'Entend pas la moto, qui vient tout juste de sortir dans les salles. Un film de Dominique Fischbach qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors moi j'ai pu voir ce film en avant-première au Festival du film de Société de Royan. Il appartient au public depuis mercredi dernier au cinéma. Vous pouvez le voir dans tous les bons cinémas près de chez vous. C'est un film documentaire qui suit pendant près de 25 ans une famille ordinaire et qui vit des choses pourtant extraordinaires à travers la surdité qui est mise en avant dans ce film, et surtout à travers Manon qui nous a vraiment beaucoup émus en tout cas en voyant ce film. Comment est venue l'idée déjà de suivre cette famille? Est-ce qu'il y avait quelque chose avec eux? Est-ce que vous connaissez? Comment on arrive à aborder cette confiance avec eux?
Au départ, c'était donc il y a 25 ans. Je cherchais une famille impactée par le handicap parce que je me disais qu'elle allait exacerber les liens familiaux. Je les ai rencontrés par hasard, en fait. Je les connaissais pas du tout. Et j'ai flashé sur Manon, déjà, qui m'a beaucoup plu parce qu'elle était rebelle, parce qu'elle était dynamique. Et ses parents et son frère et sa sœur, qui aussi m'ont accueilli très sympathiquement. Et c'est allé assez vite parce qu'elle traversait à ce moment-là un moment difficile, puisqu'elle devait renoncer à la gym à cause de son implant cochléaire. Voilà, il fallait vite se faire confiance pour pouvoir faire le film, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, comme j'ai fait 3 courts-métrages avec eux déjà, cette confiance a gagné en profondeur, et c'est aussi ce qui m'a permis de faire ce film cinéma avec eux, en continuant comme ça à explorer toute leur histoire et à les raconter, mais non pas avec des interviews et des choses comme ça, mais vraiment en cinéma direct. Pour moi, c'est un film en cinéma direct. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, que la caméra est jamais intrusive, et on les retrouve aujourd'hui, en 2024, où ils vont rendre hommage à son petit frère qui a disparu. On a bien compris qu'il était décédé, et donc cette famille va essayer, en tout cas, de se rejoindre dans le chalet familial pour essayer de renouer les liens, et surtout aussi d'essayer de faire son deuil. Parce que 8 ans ont passé depuis, et on s'aperçoit que c'est assez compliqué. C'est une famille qui a vécu beaucoup de choses, et que le personnage de Manon et que le personnage de son petit frère étaient deux personnes sourdes, mais surtout très différentes dans leur manière d'aborder leur handicap. C'est bien résumé?
Oui, oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est un film sur la pulsion de vie. C'est un film sur comment la vie, coûte que coûte, continue à nous stimuler pour continuer à vivre malgré les drames. Dans cette famille, il y a deux drames. Il y a le drame de la surdité, parce que c'est vraiment un handicap compliqué, un handicap de communication qui isole beaucoup les gens qui sont porteurs de ce handicap. Et puis, la disparition du jeune frère. Donc ça, c'est vraiment un témoignage sur la pulsion de vie de cette famille qui, coûte que coûte, malgré tout, continue à échanger, à chercher à comprendre, à avancer. Et ça, c'est très, très stimulant. C'est que c'est un film qui est fort, mais qui fait du bien aussi.
Oui, parce que Manon est tellement forte. C'est vraiment, on a l'impression que c'est une personne qui avait cette soif de vie, qui voulait faire justement peut-être de son handicap une force. Aussi à travers tout ce qu'elle nous fait vivre, tout ce qu'elle nous montre, puisque bah, les mamans d'un petit garçon aussi, qui ressemble incroyablement d'ailleurs à son petit frère. C'est assez troublant, elle est enceinte. Aussi, on va demander de ses nouvelles évidemment dans quelques instants. Mais vraiment, on suit ce parcours de cette jeune fille qui avait des rêves. Malgré tout, c'est de devenir une championne. Mais elle rêvait haut, quoi.
Bah, de toute façon, c'est une championne. Manon, c'est une championne. C'est une championne de la vie. Elle est passée... Bon, elle a dû renoncer à la gym alors qu'elle était promue à une belle carrière. Finalement, elle s'est mise à l'aviation. C'est la première femme sourde pilote d'avion. Ça reste la seule, là, depuis qu'elle a été. Donc, voilà, elle transforme les difficultés. Et puis, finalement, au lieu de faire des saltos sur un tapis de gym, elle fait des saltos dans un avion. Donc, voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'elle transforme les difficultés pour aller vers d'autres univers. Et elle continue à se réaliser. Elle est kinésithérapeute aujourd'hui. Alors qu'en fait, en France, on ne lui ouvrait même pas les portes des écoles. Elle pouvait même pas le tenter. C'est-à-dire qu'on lui disait non, c'est pas possible. Elle a dû faire ses études en Belgique. Voilà, ça n'a pas été facile du tout. Elle n'avait pas d'aide. Donc vraiment, c'est une leçon pour nous qui avons tous nos sens et qui parfois sommes là en train de se dire, se décourager. Voilà, donc c'est un film qui donne la pêche.
Et on peut s'apercevoir qu'effectivement l'implant peut changer évidemment la vie de ces personnes en situation de handicap, mais en même temps des fois c'est pas toujours si simple que ça, c'est ce qu'on s'aperçoit en voyant le film. Et alors moi ce qui m'a un peu frappé, c'est ce que dit Manon, son petit frère avait 5 ans de moins qu'elle, et malgré tout elle a été quand même relativement bien suivie à l'école, etc. Et 5 ans plus tard, son petit frère s'est retrouvé dans une classe tout seul avec son handicap, assez isolé, sans qu'il y ait personne pour s'occuper de lui. On avait l'impression que en 5 ans, ça avait régressé de manière totalement dingue. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce que ça a encore régressé? Est-ce que ça s'est amélioré, le suivi des personnes en situation de handicap dans les classes, pour vraiment favoriser cette inclusion dont on parle tant aujourd'hui?
Oui, ce qui s'est passé entre Manon et son petit frère, c'est que les classes qui étaient adaptées ont fermé derrière Manon, et donc Maxime s'est retrouvé tout seul dans des classes d'entendants. C'était ce qu'on appelait l'inclusion, mais c'était l'inclusion sauvage, c'est-à-dire pas réfléchi, pas accompagné. Et effectivement, aujourd'hui, ça ne va pas mieux. Il y a de moins en moins d'aide de vie scolaire. Il y a beaucoup d'enfants handicapés qui n'ont pas de place à l'école aujourd'hui en France, en 2025. Il faut continuer le combat, il faut continuer de défendre les droits humains. En fait, c'est des droits humains, parce que on oublie trop toutes ces personnes qui restent sur le carreau. Parce que quand vos premières expériences de collectivité sont négatives ou sont traumatisantes, c'est compliqué après de se projeter dans la vie, de se lancer dans une formation, d'avoir comme ça l'enthousiasme que tout jeune devrait avoir pour se lancer dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment, il faut réagir là, autant le corps médical que l'éducation nationale, il y a des progrès à faire des deux côtés.
Il faut montrer vraiment ce film dans les écoles, aux élus, il faut vraiment que tout le monde s'empare en tout cas de cette situation, ça c'est une certitude. Alors on a Barbara, la grande sœur de Manon, qui elle est un peu plus discrète dans le présent, mais qu'on voit en tout cas très soudée avec sa sœur qui l'accompagne beaucoup dans le passé. Quelle est justement le... Pourquoi cette discrétion? Est-ce qu'elle avait envie de prendre un peu de distance justement avec tout ça? Est-ce que le deuil de son petit frère aussi a été peut-être plus difficile pour elle, plus long? Et aujourd'hui, comment elle s'accapare ce film?
Alors, ce qui s'est passé de magnifique, c'est que Barbara, qui n'est pas dans la partie au présent du film, a découvert le film avec sa famille en public, puisqu'il voulait pas le voir avant, parce qu'il me faisait confiance. Donc, et elle s'est complètement emparée du film, puisque maintenant, elle porte le film aussi dans les salles, et qu'elle organise des avant-premières.
C'est beau.
Et qu'elle fait des échanges avec le public. Et ça, c'est formidable, parce que ce film a quelque part permis aussi à la famille de se retrouver. Et ils ont eu même, ils m'ont dit, une dite grosse discussion le lendemain de la première projection entre eux. Et voilà, et je suis très contente parce que...
Le film a peut-être participé à ressouder les liens de la famille.
Oui, parce que en fait, ça permet toujours d'aller plus loin dans l'échange et dans leur communication. Bon, c'est une famille qui communique déjà beaucoup.
Ouais, on s'en aperçut.
Paradoxalement, d'ailleurs, parce que il y a la surdité, et puis en fait, ils sont hyper communicants. Franchement, je pense que ça peut nous apprendre à nous tous beaucoup de choses.
On va prendre des nouvelles de Manon au moment où le film a été tourné. Elle a un petit garçon de 2 ans, Mathéo, qui je crois maintenant est accompagné. Du coup, je crois qu'il a une petite sœur, Mathéo, maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que Mathéo n'est pas sourd et sa petite sœur non plus, a priori.
Oui, il y a une petite Alia qui est arrivée dans la famille, qui est un magnifique petit bébé, là. Oui, les deux enfants de Manon ne sont pas sourds. Le problème était génétique au départ, c'était entre les parents, le père et la mère de Manon. Donc en fait, bon, il y avait quand même peu de chance pour qu'il le soit. Mais Manon, de toute façon, n'avait aucune inquiétude parce qu'elle, elle connaît la surdité. C'est pas du tout pareil que quand on est entendant puis qu'il nous arrive un enfant sourd dans la famille.
En tout cas, c'est un film plein d'espoir qu'on vous conseille d'aller découvrir au cinéma. Il est sorti depuis mercredi dernier dans les salles. Ça s'appelle « Elle n'entend pas la moto ». Un film de Dominique Fischbach à découvrir évidemment. Dès maintenant, un film nécessaire en tout cas qu'on vous invite. Et puis on va se quitter avec la bande-annonce. Merci Dominique d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Non.
Première vacances d'été au chalet.
La vacance.
Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman.
Elle n'entend pas la moto.
Non, et son petit frère Maxime, pareil, il n'entendait pas.
Même 8 ans après, c'est toujours difficile.
C'est douloureux. Hein. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi, cette colère, c'est quoi?
Un abandon comme ça, tout à fait. Dans l'éducation nationale.
C'est vrai que si on avait été informé de ça, on aurait pu...
C'est inimaginable, là, je ne pourrais pas l'imaginer.
J'ai vu ma fille. Je suis impressionnée par la force que vous avez.
C'est beau.
Te frapper bien, te jouer dans ma bulle. Je fais ma soif. Et je me concentre sur le patient.
Allez, Ruiz.
Top. Maman, elle entend maintenant.
C'est difficile de porter une famille et de l'amener à ce que chacun trouve sa place.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Mélanie Modran ou encore Charlotte Gassio sont avec nous et Timéo Sparking pour la grande finale de la France. Un incroyable talent. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sa référence dans les yeux de ton fils reflète que vous étiez vu complice à temps à travers ton métier. L'amour d'un père émergeant dans ses champs de blé. Le roi, pour lui, c'est toi. Des années loin des tiens, mais là pour le monde entier. Les bleus sur ton corps cachent les mots d'un cœur en chantier. De l'or dans les mains, l'amour des humains, c'est là que se joue le destin de l'homme qu'il appelle papa. Porté par le vent, selon les saisons, c'est ta guerre. Assumer la suite, même un genou à terre. Un tout petit homme a su te rendre fier. J'ai rencontré mon frère. C'est dans ses veines que l'histoire ruisselle. Une relation qui met le cœur à terre. Gardez la tête haute puisque ta lumière le porte. Aujourd'hui c'est l'amour qui règne. Ton fils et ton maître, ton héritage est sauf. Aujourd'hui c'est l'amour qui reste. T'étais là, les yeux de ton père, ta mère et ses bras de soie. À courir les champs pour la fierté du roi. Pour devenir digne il a fallu prendre de l'âge. De larmes et du sang, travailler, finir en nage. Le sourire déchu, il a poussé la porte sans bruit. Bâtisse impuissante, témoin de la chute et du vide. Fini les sourires, les larmes et le roi qui s'en va. Le fils se relève et serre sa mère dans ses bras. C'est dans ses veines que l'histoire ruisselle.
quoi tu pensais quand tu as pris cette arme? Tu as fait place au feu là où il y avait de la place pour deux. Aujourd'hui, face au silence, je m'adresse aux étoiles. Dans ce dernier chapitre, les derniers mots adressés à mon héros. Tu sais, je ne connais pas de lâche qui s'épuise à la tâche. Je ne connais pas de père qui donne autant de lumière. La porte se referme, mais la terre t'attend. Puisse le blé germer à travers nos prières. Je suis ta chair, et j'en suis fier.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à un si grand soleil avec le grand retour de Claire Estrella. Mélanie Modran est là, elle revient dans la série. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous après avoir pris l'air un petit peu de temps, prendre du temps pour soi, d'autres projets, c'est important aussi. Claire is back en cette fin d'année pour notre plus grand plaisir.
Et oui, et le mien. Et on m'a fait une très belle intrigue pour ce petit retour, voilà, de Claire. Et je retrouve des comédiens, des acteurs que j'adore. Je retrouve ma famille d'un si grand soleil, et je suis ravie.
Quand tu vois le succès qui perdure, tu te rends compte, un si grand soleil va avoir 8 ans l'année prochaine. C'est un bébé que t'as porté dès le départ, pour le coup, la série. T'étais là dès le premier épisode, la première grosse intrigue. Et aujourd'hui, voir quasiment 8 ans plus tard, le succès ne perdurer comme ça.
Ah bah, c'est incroyable que le public soit encore là, soit aussi présent. Je veux dire, les audiences faiblissent pas depuis 8 ans. Ils nous ont suivis malgré le changement de chaîne. Enfin bon, voilà, il y a vraiment une fidélité qui est indiscutable et qui fait vraiment chaud au cœur et qui fait que nous, comédiens, on est aussi toujours aussi enthousiastes à l'idée de travailler sur cette série.
Alors Claire a pris l'air un peu pendant quelques temps. Et Mélanie avec?
Ouais, Mélanie et Claire sont allées faire un petit tour. Voilà, parce que c'est comme tu le disais très justement, c'est important dans un rythme tel que la quotidienne, qui est un rythme vraiment à part, où c'est un espèce de une course de fond, quoi. Vraiment, c'est beaucoup de scènes par jour, par semaine, par mois, selon l'intrigue qu'on tourne. Et je trouve que pour se régénérer et puis pour pas lasser le public et pour pas se lasser soi-même, c'est important aussi de savoir un peu lever le pied par moment, comme tu dis, pour des raisons personnelles, professionnelles, d'autres projets. Voilà.
Puis t'as beaucoup donné, hein, pendant les 2-3 premières années, t'étais omniprésente, donc c'est vrai que tu as dû avoir besoin de souffler aussi.
Oui, oui, je dirais même les 4-5 premières années, Alain. Donc effectivement, ouais, c'est, je te dis, c'est un rythme que moi j'aime, hein, j'aime ces rythmes soutenus et tout, voilà, mais par moments c'est bien aussi justement de recharger les batteries aussi.
Et puis ça permet aussi de revenir encore plus en forme et surtout encore plus motivé à défendre ce personnage de Claire Estrella qui va faire donc son retour dans une grande intrigue événement pour ses fêtes de fin d'année.
Oui, 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 en tout cas il va s'en passer des choses, il va y avoir plein d'ingrédients comme j'aime et comme je pense le public aime aussi, à savoir évidemment des sentiments, évidemment autour de la famille.
Et le retour de Kiara?
Ah bah voilà, je savais pas si je pouvais le dire, mais effectivement, ma petite Kira est revenue. Enfin bon, voilà, donc ça c'était aussi un élément hyper chouette d'accompagner son retour. On va vivre aussi ensemble. Enfin, donc ça donne lieu à des scènes, à beaucoup de temps passé ensemble. Et c'était vraiment, enfin, on est en plein dedans là encore, donc c'est vraiment très très agréable.
Alors, il y a eu cette séparation douloureuse avec Florent. Je crois que les fans ont tous pleuré à la fin de leur couple. C'est vrai que c'était devenu un couple emblématique de la série.
Ah oui, oui, et puis on a pris un plaisir fou, Fabrice et moi, à travailler ensemble. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, Fabrice, donc je connais ses qualités humaines et artistiques. Donc on a vraiment traversé ces 4 années ensemble, main dans la main, à traverser toutes les anecdotes, épreuves, tempêtes possibles. Et voilà, et aussi le quotidien. Moi, ce que j'aimais dans ce couple et dans cette famille, c'est qu'on illustrait bien aussi le quotidien d'une famille recomposée avec tout ce que ça implique. C'est toujours très agréable de retrouver des partenaires avec qui les choses sont assez fluides, quoi.
Alors, ce retour, elle va reprendre son boulot d'infirmière à l'hôpital ou pas du tout? On part sur complètement autre chose pour Claire, ce retour?
Alors, ça aura toujours comme noyau dur son empathie à l'égard d'un grand nombre de causes et de personnes. Et donc, ça va l'amener... Alors, elle continue évidemment à travailler à l'hôpital, mais ça va l'amener aussi sur d'autres terrains, mais toujours dans la même lignée, quoi. Aider les autres, voilà. Elle va se retrouver en prison. Enfin, en tout cas, elle va aller travailler en prison, tout simplement, et s'occuper des détenus.
Ça va bien avec le personnage et son empathie naturelle.
Évidemment. Et oui, ça va très bien avec son empathie naturelle. Et là, par un concours de circonstances, cette arrivée en prison et dans un contexte nouveau pour elle, évidemment, va l'embrigader dans des histoires un peu folles, quoi.
Bon, des situations encore donc qui vont arriver. En tout cas, le retour de Claire va pas être de tout repos.
Non, absolument pas. Ça va être haletant.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ça t'a laissé justement le temps, pendant cette pause, d'aller vers d'autres projets qui vont arriver bientôt, peut-être en diffusion?
Non, j'ai pas profité de cette période pour tourner. J'ai profité pour faire plein d'autres choses dont j'avais envie aussi. Et voilà. Mais il y a des choses qui se profilent là plutôt pour le début d'année, en fait. Voilà.
Bah, c'est bien. Ouais. C'est chouette. Écoute, 2026 annonce plutôt bien.
Très bien. Oui, ça va être une belle année.
Bon. Dernière chose, moi j'aimerais bien pour les gens, peut-être qui n'ont jamais regardé un si grand soleil, j'aimerais bien que tu leur parles de Claire. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire sur Claire, là ?
Claire, c'est un personnage qui reste fidèle à elle-même, en fait, depuis le début de la série, qui est, comme on le disait tout à l'heure, très, très, très tournée vers les autres, parfois un peu au détriment de sa sécurité et même de son entourage. Voilà, enfin, elle est toujours la première à s'impliquer dans des histoires qui permettraient à quelqu'un d'aller mieux, ou voilà. Et puis elle est très très famille aussi. Elle a deux enfants, moi, qui est partie il y a très longtemps, et une autre qui est partie mais qui est revenue. Et voilà, c'est une femme de son temps, quoi. C'est une femme moderne. Elle a pas non plus besoin là de se réinscrire dans une histoire d'amour immédiatement après cette longue histoire qu'elle a eue avec Florent. Elle prend les choses comme elles viennent, et puis son travail prend une place quand même très importante. Donc finalement, ça laisse peu de place à un homme là pour rentrer, en tout cas dans l'immédiat.
Le retour de Claire Estrella dans Un si grand soleil, c'est à ne pas manquer évidemment sur France 3, c'est du lundi au vendredi à 20h45. N'oubliez pas, vous avez aussi les 5 épisodes d'avance le vendredi qui sortent sur France.tv pour binge-watcher la série dès le week-end avant tout le monde, comme ça vous pourrez tout raconter au bureau lundi pour énerver les autres. N'est-ce pas, Mélanie ?
Oui, c'est exactement ça.
Merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous, et puis on te souhaite un bon retour dans la série. On va suivre ça avec attention, merci à toi.
Merci Alain, j'étais ravie de te voir.
Tu parles de nous dans ton bouquin ?
Je tiens à te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour me rattraper.
Ouais, je sais, tu m'as déjà dit ça.
Moi, je crois que je pourrais pas, la prison, ça m'angoisse un peu trop.
Je suis hyper heureuse d'y aller.
C'est fini, Richard. Vous êtes tout seul maintenant, démerdez-vous.
Allez, c'est à l'aube de la finale de La France, un incroyable talent qui fête ses 20 ans, vous le savez, cette année, que nous avons retrouvé une des jurées emblématiques de l'émission. Quand je dis emblématique, je pèse mes mots, elle a été pendant 7 ans jurée dans l'émission, Sophie Heldenstein qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Alain, comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, moi je suis très heureux de te retrouver. C'est vrai que les 20 ans, bah il y a un clin d'œil dans La France, un incroyable talent qui va arriver. Comment ne pas t'évoquer quand on fête les 20 ans d'une émission où tu as été une jurée parfaite pendant ces 7 années ?
Ouh là là, mais comme c'est gentil, merci beaucoup. De toute façon, Incroyable Talent, moi c'est une émission qui restera toujours dans mon cœur gravée, parce que je l'ai tout le temps soutenue, je la soutiens encore, je la regarde quand je suis en France, quand je peux la regarder cette émission, parce que c'est tellement une belle exposition pour des artistes qui n'ont pas la chance d'être justement mis en lumière par une télévision. Et puis c'est une émission qui s'adresse à tout le monde, quoi. Qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 90 ans, on peut en faire partie. Qu'on soit un professionnel, qu'on soit un amateur, qu'on soit un enfant, un adulte, voilà. Et puis ça réunit vraiment toutes les sortes de spectacles vivants. Ça peut être un chanteur, ça peut être un comédien, un clown, ça peut être un disjoncté qui sort de je ne sais où, de quelle planète, mais why not, hein. On avait eu à une époque Court Circuit qui était un clown qui faisait partie d'un autre univers que moi j'avais pris sur certaines de mes productions et qui a fait aussi le Festival Mondial du Cirque de Monte Carlo. Donc voilà, sur Incroyable Talent, on voit plein de choses et tout le monde regarde maintenant cette émission parce que on voit des choses extraordinaires et on passe par toutes les émotions.
Alors, il est vrai que les professionnels regardent aussi beaucoup l'émission et t'en faisais partie, parce que souvent, il est pas rare que t'aies fait ton marché pour les spectacles dans les numéros que tu pouvais voir, parce que c'est une vraie émission aussi de repérage de talents, et c'est une lumière, en tout cas, qui est mise sur les artistes, cette émission, qui est absolument incroyable, et comme tu le disais, dans tous les domaines, on peut repérer des chanteurs, on va pouvoir repérer des jongleurs, on va pouvoir repérer des magiciens, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est du grand spectacle chaque mardi.
Exactement, et puis il y a aussi des spectacles, il y a des artistes de rue, il y a un petit peu tout le monde, disons que c'est le melting pot, on va dire, de tout ce qui est spectacle vivant en tout genre. Donc oui bien sûr, et beaucoup de professionnels regardent aussi l'émission, et moi la première. Alors je n'aimais pas trop dire je fais mon marché, mais oui, j'ai fait mon marché sur La France a un incroyable talent, où j'ai pris des artistes
auxquels tu t'es attaché peut-être aussi.
Ah mais ça a été aussi des très très belles rencontres, que ce soit avec les artistes, que ce soit avec certains membres du jury, que ce soit avec les animateurs télé, que ce soit même avec des techniciens, que ce soit, voilà, c'était une belle famille, la France a un incroyable talent. Et d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un petit clin d'œil pour certains jurés, pour aussi les candidats qui ont participé pendant les 20 ans, et ça doit passer certainement
pour les fêtes. Oui, ça va arriver là après la finale. Oui. T'as vu des talents cette année qui t'ont marqué, qui t'ont un peu bluffé? On le voit comme Timeo Sparking, qu'on va avoir dans quelques instants aussi, qui a eu le Platinum Buzzer quand même.
Ouais, et puis je crois que Timeo, il est du coin en plus, hein. Donc
il est dans notre région.
C'est un vivier de talents, la Charente-Maritime, c'est ça, hein, parce que là on a Michael Gallo aussi qui a fait The Voice, hein, pour la deuxième année du Festival de Périgny. Mais autrement, oui, bien sûr, cette année il y avait, je crois qu'ils sont ukrainiens, des équilibristes top de top. Et d'ailleurs j'ai demandé d'avoir les coordonnées. Donc il y a aussi les Messoudi qu'on avait déjà vu sur, alors eux ils sont connus, hein, c'est les professionnels, qui ont déjà fait l'année dernière où il y a 2 ans ils avaient un numéro d'équilibre aussi. Ce sont des Marocains et là ils ont un numéro de jonglage sexy. Donc non, il y a des beaux numéros.
Ouais, puis on a vu des chanteuses aussi, hein, comme par exemple Daisy, qui est venue se remettre un peu effectivement sur le devant de la scène, alors que elle est en train d'exploser de partout. Et c'est vrai que voilà, cette émission, en tout cas, c'est une vraie découverte. Alors
seule émission justement où on peut voir ce genre de spectacle. Et
depuis,
et puis depuis malheureusement l'arrêt du plus grand cabaret de Patrick Sébastien, parce que Patrick, il nous mettait aussi en valeur. Et pour nous les artistes, c'était aussi un plaisir de pouvoir se produire au plus grand cabaret. Ben là maintenant, non, tout le monde tape à la porte de la France à un incroyable talent.
Alors, si vous êtes près de La Rochelle, justement, à Périgny, c'est la deuxième, tu l'évoquais, là, c'est la deuxième édition du Festival International du Cirque. C'est jusqu'au 31 décembre, dont tu es la marraine. Alors, explique-nous pourquoi tu as accepté ce rôle déjà de marraine.
Alors, je suis la marraine, mais alors je vais préciser aux gens, je ne suis pas là en spectacle cette année. Je suis juste la marraine. Je donne un petit coup de main, on va dire, pour les organisateurs, parce que c'est une belle rencontre. Les organisateurs, on a Judy Gaëlle Vatier, on se connaît depuis plus de 10 ans parce que ça a été un de mes présentateurs. Donc quand il m'a demandé, mais Sophie, vous voulez pas venir nous donner un petit coup de main pour nous dire ce qui va pas, les lumières, s'il y a peut-être des relookages et tout ça, j'ai dit, mais évidemment que je vais être là. Il m'a proposé d'ailleurs de faire partie du spectacle, mais je suis déjà en spectacle pour les fêtes de fin d'année. Donc malheureusement, je ne pourrai pas, mais peut-être pour la troisième édition.
Allez, décembre 2026, on espère en tout cas t'accueillir effectivement dans la région.
Mais cette année, il y a un parrain extraordinaire. C'est
oui, Michael Gallo, finaliste de The Voice, évidemment, le finaliste de Patricia Cass, qui donne de la voix pendant toutes ses fêtes jusqu'au 31 décembre, effectivement, là-bas.
Et puis, il a un rôle emblématique dans cette deuxième édition, puisque c'est un peu le fil conducteur. Il a adapté son répertoire pour le cirque aussi, et c'est top. Et c'est aussi une belle rencontre.
Ouais, et puis, vous allez voir, hein, si vous allez voir, vous allez être surpris, parce qu'il joue très bien comédie aussi, mon cher Michael. On va terminer par tes projets. Sophie, justement, tu nous disais que tu allais être sur scène pour les fêtes, alors où c'est qu'on va pouvoir aller te voir?
Alors là, je vais être sur un autre festival, c'est le Festival du Merveilleux au Musée des Arts Forains. Et puis après, on a en projet de Sophie Edelstein fait son cirque. Donc d'abord peut-être une scène sur Paris et après certainement en tournée, voilà.
Eh ben, on te soutiendra, évidemment, on ira te voir, je l'espère bien. En tout cas, il y a des projets, il y a des belles choses. Et puis évidemment, ce clin d'œil, hein, c'est les 20 ans de la France, un incroyable talent. Et on avait envie vraiment, en tout cas, je sais que tu nous as accueillis avec grand bonheur sous ton chapiteau. Et on a eu l'occasion de t'avoir plusieurs fois quand tu étais juré de l'émission. Donc on pouvait pas passer ces 20 ans sans que tu sois avec nous. Merci beaucoup, Sophie.
Mais merci à toi, Alain, c'était un plaisir. Et à très vite, alors.
Et à très vite, Timeo Sparking nous rejoint dans un instant pour parler justement de cette grande finale. C'est demain soir, c'est sur M6 à 21h. 10, on ne le rate pas. Merci Sophie.
Merci à toi.
Et bravo à tous les artistes. Merci cher jury. Merci à vous, chez vous, à la maison, de votre fidélité. On se donne rendez-vous mardi prochain en direct pour la finale. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur M6.
Et oui, la France a un incroyable talent. C'est la grande finale, donc, demain soir sur M6 à 21h10. On ne la rate pas. Le Platinum Buzzer nous a rejoint. Timeo Sparking, il vous a tous mis à terre, y compris le jury, les téléspectateurs, tout le monde. Timeo est avec nous. Bonjour, Timeo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que t'as mis tout le monde, alors, sans être vulgaire, sur les fesses. Franchement.
Oui.
Tu t'en es rendu compte?
Oui.
C'était dingue ce que t'as fait. Et c'est vrai que j'imagine ton émotion quand t'as vu tout ça tomber et qu'ils appuient tous sur le Platinum Buzzer. C'est quelque chose qui a dû être magique. Il y a une absence à ce moment-là où on réalise pas ce qui se passe.
Oui, en fait j'étais très très content, j'étais impressionné, je m'y attendais pas du tout en fait.
T'as commencé à jouer à quel âge, Timéo?
Moi, j'ai commencé à jouer à 3 ans de la batterie et un peu plus tard du ukulélé. Et ensuite, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé la guitare.
Oui, ukulélé, c'est beaucoup plus doux.
Oui.
Et c'est quoi ta préférence ?
Je préfère la guitare électrique, les solos en shred, tout ça. Les Steve Vai, Tim Henson, Polyphia et tout ça.
Qu'est-ce qui t'a fait découvrir toutes ces musiques ? C'est papa ?
Alors en fait, Tim Henson et Polyphia, ça c'est un prof de guitare qui m'a fait découvrir ça. Et ensuite j'ai écouté Polyphia, c'est le groupe de Tim Henson. Et j'ai découvert en même temps que Polyphia, Steve Vai. Et c'est devenu mon guitariste préféré. Maintenant j'ai sa guitare.
Non mais ça c'est la classe. C'est la classe. Alors, à quel moment tu t'es dit, tiens, si je faisais à France un incroyable talent, si j'allais là-bas, à quel moment tu t'es dit ça ?
Alors en fait, c'était mon petit batteur, Travis, qui s'y était inscrit. Et moi, ça m'avait donné l'idée de m'y inscrire. Et tout le monde me disait que j'avais un talent et qu'il fallait que je m'y inscris.
Et là, évidemment, gros succès.
Oui. Bah, en fait, c'était vraiment incroyable parce que juste avant le passage, c'est assez rare, mais je stressais beaucoup.
Tu stresses pas quand tu montes sur scène, généralement? T'as pas le trac?
Non, jamais. Mais là, je stressais beaucoup parce que c'était quand même un plateau télé, il y avait beaucoup de gens. Et il y avait les jurys qui étaient impressionnants.
Eh oui, les caméras, tout ça. C'est quel jury qui t'impressionnait le plus? Lequel tu redoutais?
Sugar Sammy.
C'est pas vrai, tiens.
Ouais.
Bah... Celui qui t'impressionnait le moins, que t'aimes le plus, peut-être?
Je dirais Eric Antoine.
Ouais. C'est la coqueluche, hein, Eric, hein.
Ouais.
Vous êtes vu après l'émission? Après l'enregistrement?
Alors non, on s'est pas vu après l'enregistrement parce que après quand ils ont fini, eux ils s'en vont dans leur loge. Du coup, je les ai pas vus.
Ouais, et puis ils veulent peut-être rester neutres aussi par rapport aux talents qu'ils ont vus avant de faire notamment les débriefings et puis surtout aussi sélectionner. Alors même si toi t'es parti directement pour la finale, alors toi t'as grillé toutes les étapes, hein, t'as fait carrément sur place l'audition finale. Comme ça au moins, tu vas pas stresser longtemps, quoi.
Ouais, c'est vrai que là, par exemple, si j'avais fait quart de finale, demi-finale et tout ça, là, il y avait plus de choix à préparer et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors que là, maintenant, depuis le 8 juillet, j'ai beaucoup de temps pour travailler la finale.
Timéo, t'es une vraie star à l'école ou pas? Parce que moi, je m'imagine, quand j'avais ton âge, si j'avais eu un copain que j'avais vu à la télé la veille au soir, mais le lendemain, à l'arrivée, on l'attendait tous, quoi.
Oui, c'est vrai que en fait, mes maîtresses, elles m'avaient préparé une aide d'honneur. Et aussi, au jour d'école, on avait regardé ma vidéo et ils m'avaient posé des questions, les élèves de ma classe.
Et oui, sur les coulisses de l'émission, sur ta participation.
Oui, on m'avait posé beaucoup de questions là-dessus. Et après, à la récréation, ça a continué, on m'avait posé beaucoup de questions aussi. Mais maintenant, ça va, ça s'est un peu arrêté maintenant, ils me posent plus de questions.
Oui, mais attention, à partir d'après-demain, ça va recommencer. Timéo, t'es prêt, après la finale, à repartir sur tout ça?
Oui.
Surtout si tu gagnes, moi c'est ce que je t'espère. Évidemment, t'es notre chouchou, donc il faut que tu y ailles. Hein. Là, tu rafles tout, hein, demain soir.
Oui.
Est-ce que t'as le trac à 24 heures d'y être ou ça va?
Non, ça va.
Tranquille, tu sais ce que tu vas faire déjà ou pas?
Oui, je connais bien mon show, ouais.
Ah ouais, carrément. T'as carrément un choix. Alors, il faut dire que avant de faire à France un incroyable talent, tu faisais déjà des concerts un petit peu partout. C'est assez dingue. Et puis ça t'a permis aussi d'acquérir l'assurance, une assurance sur scène quand même, d'être plus sûr de toi, justement peut-être de vaincre ce trac que tu n'as plus aujourd'hui aussi.
Oui, c'est vrai que avant je faisais beaucoup de concerts et tout ça, des festivals aussi, mais à des trucs comme ça, j'avais pas le trac. Mais là, à incroyable talent, j'avais beaucoup le trac.
Oui, il y a quand même un enjeu. Puis à mon avis, les concerts, c'est pas fini, mon cher Timéo. Je pense que là, c'est que le début. Et d'ailleurs, tu joueras sur la scène de Noël à Royan, en Charente-Maritime. Ça sera le 4 janvier. On pourra te retrouver à partir de 17h sur la belle plage de Royan pour un show exceptionnel. Un rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer pour ceux qui sont en Charente-Maritime. Moi, je vais m'adresser un peu au papa et la maman quand même, qui sont juste à côté. Parce que, franchement, moi, j'imagine votre fierté à tous les deux de voir ce petit bonhomme comme ça sur scène, renverser carrément, je crois littéralement, le plateau. Et Antoine, c'est un papa très ému qu'on a pu découvrir, en tout cas à l'écran.
Le jour des auditions, oui, le jour des auditions, moi j'étais plus là, j'étais très 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 stressé, mais très fier aussi, impressionné par mon fils.
Et la maman qui a regardé sa distance parce que t'es prise par le boulot entre les deux. C'est rageant de voir ça à la télé, mais bon.
Oui, c'est comme ça. C'est rageant de voir la télé. Mais j'étais très, très impressionnée par le talent de Timéo et très fière de mon fils et très honorée d'être la maman de cette petite star. Et je suis contente de voir Timéo réaliser ce rêve-là.
C'était un rêve pour toi de participer à une émission comme ça, un talent show, de pouvoir mettre à terre. Parce qu'entre le rêve de participer à une émission et mettre à terre comme ça tout un jury, c'est quelque chose qui restera gravé à jamais, ça, ces moments-là.
Ouais, c'est vrai que ouais, c'est assez impressionnant et ouais, je m'en rappellerai toute ma vie, ça.
Bon, la finale, demain soir, c'est à 21h10 sur M6, on ne le rate pas, bien évidemment. On vous invite à soutenir Timéo, il y aura des votes qui seront ouverts, le public va pouvoir voter, bien sûr, demain soir. Donc restez connectés, vous aurez évidemment à l'écran toutes les informations de vote pour voter pour Timéo. Et nous, évidemment, on va être là pour pousser, on va être là avec toi, hein, évidemment, pour cette grande finale. Prêt ?
Oui, je suis prêt.
Bon, alors, pour te chauffer un petit peu, Timéo, moi, je sais pas, tu nous jouerais pas un petit morceau, quand même, avant de se quitter ?
Ouais, je vais vous jouer un petit morceau, ouais.
Bon, alors, on va te laisser t'installer, et puis, on va lancer la bande-annonce, La France a un incroyable talent, la finale, c'est demain soir, 21h10, sur M6, et on revient juste après, le temps que Timéo s'installe à la guitare. À tout de suite.
Bravo à tous les artistes, merci cher jury, merci à vous, chez vous, à la maison, de votre fidélité. On se donne rendez-vous mardi prochain en direct pour la finale. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur M6.
Allez, la France a un incroyable talent, la finale c'est demain, 21h10 sur M6. On est avec Timéo Sparking, notre Platinum Buzzer de cette année. Et Timéo vient de brancher la guitare et je sens que ça va y aller. Timéo, t'es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
Eh ben allez, c'est parti. Envoie le son, Timéo. C'était la pré-finale de La France, un incroyable talent avec Timéo Sparking. Merci Timéo. Et puis bonne chance. À demain sur M6.
À demain.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Nouveau Jour. Vous le savez, on lâche rien jusqu'à la fin. On accompagne les comédiens justement pour ce final qui approche à grands pas. Vous pouvez suivre la série sur M6 à 6h le matin pour les lèvres tôt. Puis vous avez également la possibilité, bien sûr, de suivre la série sur M6+. Trois des comédiens sont avec nous pour évoquer justement leur rôle. Annabelle Moreno, bonjour Annabelle.
Bonjour.
Et le rôle de Bonnie qui est avec nous, fille de Juliette Chen dans la série. Inès Ouchaou qui joue Lina. Bonjour Inès.
Bonjour.
Merci d'être là, et le beau gosse qui a remis un peu tout en cause dans la vie de Théa, Loïs Schlipper, qui est avec nous, qui joue Kylian le filleul d'Elena Noguera. Bonjour Loïs.
Bonjour, ça va bien ?
Oui, ça va très bien. Je suis très heureux de vous avoir. C'est une série que nous, on a accroché direct, évidemment. Vous avez mené cette aventure tambour battant pendant plusieurs mois. Les fans sont encore là. Moi, déjà, première question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez réagi d'une à l'annonce de l'arrêt de la série quand vous avez vu les fans qui prenaient votre défense et qui, en plus, montaient carrément des pétitions pour sauver la série ? C'est dingue.
C'était ultra touchant parce que cette série, elle nous tient tous à cœur. On a fait des rencontres humaines incroyables, même en termes de travail, c'était génial. Et le fait que les gens aient pu ressentir ça, tout le travail qu'il y avait dans cette série, ça nous a énormément touchés. Ça nous a aidés aussi à prendre la nouvelle, quoi, à recevoir la nouvelle de l'arrêt. Mais de se dire, ouais, il y a quand même des gens qui sont là et qui ont kiffé et qui vont aller jusqu'au bout avec nous. Et on se sent accompagné et c'est cool.
Et on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien.
Ah oui, non, complètement. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ça très prématuré et forcément, on a plutôt mal réagi à l'arrêt de la série, quoi.
Loïs ?
Bah pareil, un petit pincement au cœur forcément, mais comme dit Inès, des très belles rencontres et on va garder le beau. Et je pense qu'on va tous se recroiser plus tard dans nos petites carrières.
J'en suis sûr, effectivement. Alors Annabelle, Bonnie est l'éternelle joyeuse, je dirais, l'éternelle un peu optimiste. Bon, qui a dû recadrer un peu Pablo parce que Pablo est carrément tombé sous son charme quand même, faut le dire.
C'est vrai, c'est vrai. Bonnie, oui, elle est très optimiste dans la vie, elle est très good vibes. Et elle a pu beaucoup aider Pablo qui, lui, à ce moment-là, déjà de 1, ne savait pas nager. Et forcément, durant les leçons, il est tombé amoureux d'elle. Mais Bonnie n'est pas un cœur à prendre, malheureusement.
Et non. C'est ce qu'on va découvrir, effectivement, au fur et à mesure de la série. Et alors pour toi, ma chère Inès, alors toi, meilleure amie d'Adriane, alors lui, Mais je crois qu'il en a fait voir toutes les couleurs, mais il y a toujours de bons conseils, enfin, presque.
Boucan, gros boucan Adrian, et c'était génial de tourner avec lui, et le personnage est génial, et nos persos marchaient trop bien ensemble. C'est un énorme kiff de bosser avec lui.
Alors Loïs, il est arrivé, il sort de prison, et évidemment il arrive directement à l'hôtel Bartoli. Il se fait embaucher par sa marraine à l'hôtel, qui perd son hôtel évidemment. Mais lui en tout cas, ce qu'il va pas perdre, c'est le cœur de Théa qui va faire basculer tout. Et entre Marin et Kylian, plus rien ne va.
Ouais, la rivalité est née, mais bon, je vais pas spoiler, mais ça va bien se passer pour Kylian avec Théa.
Ouais, le final va être sous haute tension entre les deux.
Ouais.
Entre Marin et Kylian.
Je me fais un peu coacher par Inès ici.
Elle est toujours de bons conseils en amour, Inès.
J'ai bien l'impression, ouais, jusqu'à maintenant ça marche. On verra ce que je fais avec Adrian très bientôt, parce que il y a des conseils à donner aussi.
Entre Lina et Adrian.
Amicalement.
Très, oui, bien
très
sûr.
Amicalement, mais entre Adrian et Jade, il va falloir conseiller sur conseiller, quoi.
C'est drôle parce qu'évidemment, vos personnages gravitent avec vraiment des familles différentes, tous. Quand vous avez vu les décors, quand vous êtes arrivé sur le premier jour de tournage, vous êtes dit quoi? Parce que moi qui ai eu l'occasion de visiter le château, vous avez un backlot apparemment qui est extraordinaire. On se dit quoi quand c'est comme ça, quand on arrive sur un bateau comme ça?
Bah on se dit qu'on a beaucoup de chance de tourner dans des décors comme ça, surtout le château qui est incroyable. Mais les backlots, c'est fou parce qu'ils ont vraiment recréé une ville, quoi, en fait. Avec un commissariat, une salle de sport, la caserne de pompiers, un bar. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment dingue.
Inès?
Moi, ce que j'ai adoré, c'est le détail qu'il y a eu dans le travail en termes de déco. Au backlot, par exemple, les rues, c'est vraiment, mais au détail près, je trouve que ça rend la série incroyable, en fait. Les décors, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se repose énormément en tant que comédien, en général, que ce soit costume, décor et tout. Et là, on avait de quoi manger et ça faisait plaisir. C'est beau, c'est frais, c'était parfait, quoi, pour taffer.
Loïs, ton décor favori, alors t'as tourné beaucoup au château, toi?
Ouais, moi, c'est vraiment le château parce que, la nature autour est magnifique. Il y a une petite rivière à côté, on avait la piscine. Entre deux séquences, cet été, on allait se baigner. Donc, franchement, c'était un super décor. Moi, je me sentais trop bien là-bas. Mais, pareil, le backlot, production hollywoodienne, on a l'impression, on arrive là-dedans, on se dit, oh, waouh, ils nous ont mis le paquet, quoi.
Après 6 mois d'aventure, vous avez vécu plein de choses. Quel souvenir principal vous garderez, tous les trois, de cette série? Oui.
Les rencontres, le casting. On est vraiment une super team. Il y a eu trop de liens créés. Et même après ça, on va rester soudés, c'est sûr. Et il y en a qui sont à Montpellier, il y en a qui sont à Paris, à Lyon, à Lille. Mais on trouvera toujours un point de
rencontre. Un point de chute.
Un point de chute pour continuer à se voir. Et aussi beaucoup de réal. Parce que c'est des sessions de 2 semaines et il y a une équipe A, une équipe B, ce qui fait que on a 4 réals par mois et finalement c'est tout le temps une manière de travailler différente suivant les réals, mais on a eu plein de bons réals et de bonnes réalisatrices et ça fait trop plaisir parce que c'est aussi des liens qu'on crée et pourquoi pas retravailler par la suite avec eux.
4 fois plus de chance, du coup, d'avoir des réalisateurs qui vous font appel parce qu'ils ont adoré travailler avec vous. Ça, c'est sûr. Souvenir principal, Inès?
Moi, je vais pas être très originale. Les rencontres, en général, l'équipe comédien était incroyable. Enfin, vraiment, il y avait un aspect famille dès le départ. Et pourtant, c'était pas donné dans le sens où il y avait justement des comédiens qui venaient de partout en France avec des carrières plus ou moins grandes. Et finalement, on s'est tous retrouvés sur ce projet avec un amour du travail et juste un amour de l'autre qui était génial. Après, les équipes techniques étaient dingues. Gros big up au HMC qui était incroyable, qui a été porté par des femmes incroyables. Et en fait, on était trop bien entourés. C'était juste, en vrai de vrai, c'était un rêve éveillé dans le sens où on part sur une quotidienne, on se dit, ah, c'est une machine. Mais quand il y a de l'humain derrière, c'est incroyable. C'est juste du kiff de 8h à 23h, 24h, quand c'est des nuits 4h du matin, et on retourne se coucher et on se dit, ah, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est cool.
C'est génial quand c'est comme ça. Annabelle?
Je pense que mes chers camarades ont tout dit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les rencontres qui nous ont le plus marqué sur ce tournage. Toutes personnes confondues, tout poste confondu, c'est vraiment des gens qu'on espère revoir à l'avenir sur d'autres projets.
Bon, alors justement, les projets, comment ça se dessine? Je suis sûr que même ceux qu'on n'a pas forcément beaucoup, ça va venir parce qu'effectivement, on disait, quand vous êtes sur une quotidienne, vous devenez des machines de guerre, vous avez une réactivité, vous avez une rapidité de tournage, c'est une école absolument incroyable. Donc est-ce qu'il y a des petites choses qui se dessinent pour 2026, Loïs?
Moi là, c'est vraiment une page qui se tourne et on repart sur une page blanche. Donc je vais rattaquer très vite, j'habite à Paris, donc ça va repasser des castings à fond. Et à côté, j'écris un peu. Donc aussi essayer de se faire produire.
T'aimerais réaliser?
Ouais, J'aimerais, j'ai un collectif avec des amis, à la base je suis originaire de Bordeaux, et on a déjà réalisé des 48 heures, des courts-métrages, tout ça, en équipe, mais là j'ai des projets un peu plus personnels qui sont en écriture.
Tu reviendras nous en parler ?
Avec plaisir.
Porte est ouverte, en tout cas. Inès.
Moi, avant Nouveau Jour, j'avais repris mes études en Sciences Po, que j'avais mis en pause quand j'avais eu plusieurs projets à un moment. Du coup, je m'étais dit, bon, let's go, je retourne en politique et tout, je travaillais pas beaucoup. Et puis, j'ai eu un tournage qui est tombé pour Pécheresse sur OCS. Ensuite, j'ai eu La Disparue de Compostelle qui est tombée en février. Et puis d'un coup.
J'ai pu retrouver Justine Grave d'ailleurs.
J'ai pu retrouver Justine Grave que j'ai pas croisé sur le tournage parce que j'avais pas beaucoup de jours. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait Disparue de Compostelle. Je me suis dit, allez hop, sympa. Et puis d'un coup, il y a eu Nouveau Jour. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Et la vie est souvent comme ça dans ce métier, c'est qu'il y a rien. Et puis d'un coup, il y a plein de choses. Et du coup, je me fais pas trop de soucis pour ce qui vient. Là, j'ai découvert le métier de casteuse. J'ai travaillé pour le prochain film de Kauter Benania qui se tourne dans la région de Montpellier et en Lozère. Du coup, je sais que là, je commence à mettre mes cartes un peu partout. Et le métier en général, en global, me plaît. J'ai envie de réaliser aussi. J'ai envie de faire plein de choses.
Annabelle, on t'a vu dans La Stagiaire aussi, la 10e saison qui a été diffusée à la rentrée dernière. Et quels sont tes projets justement pour 2026? Il y a des choses qui arrivent.
Eh bien, je passe des castings. J'en ai passé là après l'arrêt de la série. Et j'espère encore en passer dans l'année 2026. J'ai des projets aussi au niveau théâtre avec deux amis à moi, où on avait une troupe ensemble l'année dernière. Et là, on aimerait remettre en scène une autre pièce. Donc ça va se faire durant l'année 2026. Et voilà, après, ça fait partie du métier. Il y a des moments où il se passe plein de choses et d'autres moments où il y en a moins. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a signé, quoi.
N'oubliez pas, en tout cas, que l'aventure que vous avez vécue va vous lier, c'est sûr, à jamais, va vous ouvrir plein de portes. J'en suis sûr. Et puis, nous, on va continuer à vous suivre jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr et certain. Et on va vous accompagner. Merci infiniment d'avoir été là tous les trois avec nous. Puis, on se revoit bientôt, j'espère. Vous n'hésitez pas. À très vite.
Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci, Inès.
À très, très vite.
Et merci, Annabelle.
Merci beaucoup. À très vite.
Si Lou a reçu sa lettre, ça veut dire que quelqu'un a trouvé ma boîte et a tout distribué. Mais c'était pas des lettres d'amour pour vous.
T'avoueras que c'est quand même très très spécial.
C'était sur votre bureau. Je dirais que c'est la réponse d'un de vos mignons.
On a retrouvé sa voiture sur le parking de l'hôtel. Il a soupçonné d'avoir tiré les coups de feu.
Et ça, c'est normal?
Elle est là! André!
André, il a eu trop peur là.
J'ai trouvé un truc dans sa bagnole. C'est le flingue qui a servi à tirer sur l'hôtel.
Allez, notre coup de cœur télé consacré au téléfilm Les Trois Brestoises, qui peut être le pilote d'une future série qui sera diffusée vendredi à 21h10 sur France 2. À cette occasion, l'une des Trois Brestoises, Charlotte Gassiot, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Je suis très content de t'avoir, parce que voilà, on se connaît bien, et c'est vrai que c'est chouette de te voir dans un autre rôle. Et on va découvrir effectivement celui de Vanessa, une psychocriminologue, qui fait équipe avec deux amies d'enfance, dont l'une fait son retour, son grand retour à Brest après un drame, puisque son mari s'est fait tuer lors d'une infiltration. Et donc, Léane fait son retour. Alors, elle est un peu tête brûlée. Vanessa, elle, la psychocriminologue, est un peu, voilà, ultra indépendante. Et puis, on a aussi, évidemment, la troisième brestoise, qui est jouée par Garance Tenneau, qu'on adore aussi, qui elle est peut-être un peu trop heureuse dans sa vie, dans son couple, et s'ennuie un petit peu. Voilà, c'est vraiment trois personnalités radicalement opposées qui vont traquer les criminels de la Bretagne tout en menant de front leur vie de femme, leur boulot, leur vie de famille, et peut-être remettre en selle aussi leur groupe de musique, les Trois Brestoises, qu'elles avaient laissé tomber 15 ans auparavant. Est-ce que c'est bien teasé tout ça?
Extrêmement bien teasé, résumé. Moi, tu m'as donné envie.
C'est vrai. Ah bah, tu vois, comme quoi. Qu'est-ce qui t'a plu dans Vanessa? Comment tu la définirais, toi?
Moi, j'ai aimé cette femme libre qui fait ce qu'elle veut, qui est célibataire, qui est bisexuelle, qui est libre, en fait. Voilà, qui est vraiment une femme qui fait ses choix de vie que selon elle. Et ça m'a vachement plu. C'est vrai que j'ai beaucoup joué les mamans dernièrement. Et qu'on m'envisage sur ce type de rôle, ça m'a fait très plaisir.
Alors, c'est vrai que Vanessa est pleine de surprises. On va découvrir plein de choses, évidemment, qu'on va pas dévoiler là. Mais on va voir qu'elle cache quelques petits secrets à ses deux copines, quand même.
Voilà, ouais. Elles se disent pas encore tout. Je pense que le drame que vit Léane... et violent aussi pour ses amis, elles sont vraiment là pour la soutenir. Et je pense que du côté de Vanessa, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... pour l'instant, c'est elle qui est importante et c'est sa douleur qu'on doit gérer. Les histoires de ma petite vie, ça peut attendre.
Alors, c'est vrai que dans ce travail de psychocriminologue, Vanessa a des fois du mal à lâcher sa casquette de psy, y compris envers ses deux amis.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la déformation professionnelle. De temps en temps, elle remet un peu une dose de psy et elle se fait reprendre. D'ailleurs, il y a un moment où Élodie lui dit « En fait, là, je parle à ma pote, je parle pas à ma psy. Donc, merci de pas m'analyser en permanence.
» C'est ça. Exactement. Non, mais il y a plein de scènes drôles aussi. C'est vraiment un mélange d'enquête et de comédie, même s'il y a des moments, plus sombres, plus durs, puisqu'on va suivre déjà quand même Léane qui arrive dans sa nouvelle équipe et qui va intervenir suite au décès d'une vieille dame qui va s'avérer être un assassinat. Toute la famille proche va devoir être suspectée, interrogée, retrouvée. Et c'est une enquête plus musclée que prévu. En tout cas, que Léane va devoir tenter de résoudre, mais elle va toujours pouvoir compter, en tout cas, sur Élodie et Vanessa pour l'aider.
Oui, exactement. Et puis en plus, je trouve que l'enquête est très intéressante parce que Les Trois Brestoises, c'est tiré d'une collection de livres qui s'appelle Les Trois Brestoises, écrite par Pierre Poucheret. Et Pierre Poucheret est un ancien policier. Donc ce sont ces enquêtes qu'il romance, mais tout est basé sur des enquêtes sur lesquelles il a vraiment travaillé. Je trouve que ça ajoute notre saveur et de savoir qu'il y a de la véracité dans les affaires qu'on évoque.
T'as pu les lire avant ou pas?
Alors j'ai commencé à lire et en fait, ça m'embrouille trop.
Ben oui, je me doute.
La beauté du livre, c'est que il y a pas de budget à l'imagination quelque part, donc on va un peu plus loin dans les personnages, dans des choses. C'est sûr que sur 90 minutes, 300 pages, on les résume pas de la même manière. Donc ça m'a un peu perturbée. J'ai commencé à lire, mais comme ça m'a perturbée, je me suis arrêtée. Et en même temps, il y a un endroit où ça m'a quand même permis de comprendre certaines choses sur Vanessa qui sont évoquées dans les livres, qui ne sont pas forcément frontalement dans le film. Mais je me dis, bon, ça peut me servir pour après, pour certains sous-textes, on va dire, pour la comprendre d'une autre manière.
Bon, on imagine, alors moi j'ai vu la fin, évidemment, mais on imagine très bien que c'est peut-être le pilote d'une série, parce qu'on a hâte d'en savoir plus sur ces trois Brestoises et les voir enquêter, peut-être en tout cas sur une nouvelle affaire. Est-ce que si le succès est au rendez-vous, ce qu'on ne doute pas, vendredi, est-ce qu'on peut imaginer une suite? Est-ce que t'as envie, toi en tout cas, de réendosser ce rôle de Vanessa? Est-ce qu'il y a assez de romans d'avance pour pouvoir adapter?
Il y a 16 romans, donc oui, il y a assez de romans d'avance pour les adapter. Après, voilà, il faut que le public soit au rendez-vous, que toutes les planètes s'alignent. Mais nous, il s'est passé une petite magie entre nous trois, entre nous tous en fait d'ailleurs. Je dis entre nous trois parce que c'est les trois Brestoises, mais même avec les garçons, avec les autres personnages. Il s'est vraiment passé un truc fort et on a tous envie de se retrouver et que ça dure. Donc effectivement, voilà, s'il y a succès au rendez-vous et si France Télé a envie de la suite, nous, on y va, mais en courant.
Vous allez voir que pour les amateurs des séries quotidiennes, vous n'allez pas être en reste, hein, puisque Janice Abric aussi fait un petit rôle dans le rôle d'Erwan Karoff, un gendarme qui est pas très très ravi en tout cas de l'arrivée de Léane. Voilà.
Exactement.
On a Yvan Le Bollock qui a une partition géniale et on ne ratez pas la partition de Roby Skinazi, surtout sa première scène. On vous dit rien, mais vous n'allez pas être déçus du voyage, mesdames.
Mais tout le monde va être content. ça fait plaisir.
Bon, on va écouter un petit extrait des Trois Brestoises et puis on revient juste après Charlotte. On va parler évidemment d'Audrey Roussel et de Demain nous appartient aussi dans
bien
un
sûr.
Tout petit instant, mais tout de suite un petit extrait, c'est vendredi à 21h10 et si vous pouvez pas attendre, c'est déjà en ligne sur France.tv, à tout de suite.
J'ai pas envie de parler de boulot toute la soirée, mais juste pour vous prévenir, on a vérifié et Corentine Le Dantec a bien appelé depuis son fixe vers le téléphone portable de sa fille dimanche soir et qu'elle était bien rentrée chez elle.
Ok, donc ça l'élimine de la liste des suspects. Et Julien?
Et Julien, tout ce qu'on sait c'est que son portable officiel ne borne pas dimanche soir chez sa grand-mère, donc
voilà.
Ok, et ben, puisqu'on parle boulot, j'en profite pour vous dire que j'ai déposé un dossier pour faire un stage à Quantico, la ferme des cadavres.
Attends, tu reviens pas déjà de 3 semaines de stage de je sais pas quoi d'ailleurs?
Alors c'était pas un stage de je sais pas quoi, c'était un stage de perfectionnement au prélèvement ADN, donc c'est très important et ça n'a juste rien à voir.
D'accord. Et tu vas en enchaîner combien des stages comme ça, Hélo?
Et Eric, il dit rien là, de tout gérer tout seul à la maison pendant que t'es aux quatre coins du monde?
Oh, du calme. Eric, il est parfait, vous le dites tout le temps. Il adore être avec les mômes, il est trop content et il adore que je m'épanouisse dans mon job, il me fait pas chier, lui.
Et de retour, donc, les Trois Brestoises, hein, vous le disiez, c'est vendredi à 21h10 sur France 2 et en attendant, eh bien, Charlotte, évidemment, c'est du lundi au vendredi à 19h10, dont Demain nous appartient et d'ailleurs la semaine prochaine, je crois que c'est mardi, vous aurez 2 épisodes de Demain nous appartient pour rattraper le petit retard d'un épisode qu'il y avait avant les fêtes, donc ne ratez pas, vous aurez une double dose sur une journée la semaine prochaine. En attendant, Charlotte, je crois qu'on peut dire que les Roussel reviennent en force depuis la semaine dernière et que le passé d'Audrey est en train de ressurgir, mais bien malgré elle.
Oh là là. Oh là là, oui, oui. Bah oui, les Roussel, on est contents de se retrouver toujours et d'avoir des intrigues ensemble. Alors celle-ci, elle est... Ah là là, cette intrigue, elle est très forte. Le passé d'Audrey, effectivement, refait surface. Avec ça, le passé des enfants et encore et toujours des secrets de famille, quoi. On se rend compte qu'Audrey est quand même une sacrée cachotière, un peu une menteuse quand même aussi. Donc ça remue beaucoup la famille. Il y a des conflits entre Jack et Lizzie, ce qu'on n'avait pas encore vu, parce que
ouais, c'est vrai qu'ils étaient très soudés, ces deux-là.
Les jumeaux, ils sont très soudés, et là même chez eux, ça va pas très bien.
Alors c'est vrai que d'une semaine à l'autre, chez les Roussel, quand même, on passe de la comédie ou là quelque chose de plus sombre, parce qu'il y avait une histoire de chaussettes qui avait mis un peu le feu aux poudres la semaine d'avant.
Oui.
Il y avait Lizzie qui commençait à avoir des vues sur Marceau. Voilà, on sentait quand même qu'il y avait des petites choses qui se passaient dans le petit cœur de Lizzie. Puis d'un seul coup, voilà, on a basculé avec effectivement Jack et Lizzie qu'on a vu qui étaient suivis la semaine dernière et ce passé qui ressurgit en tout cas dans la famille, qui va occuper un peu toutes les fêtes ou pas ?
Oh oui, ça va jusqu'à Noël, mais Noël, c'est des beaux moments de famille, donc ça va bien se finir cette histoire, je pense.
Ben oui, puis on espère en tout cas que la famille Roussel va fêter Noël comme il se doit du côté de Sète. Alors c'est vrai que t'es passé du coup de l'océan à la mer Méditerranée. Changement de climat total entre Brest et Sète, mais on a l'impression que tu t'y sens bien à Sète quand même, hein.
Bah écoute, ouais, je m'y sens bien. J'en reviens pas que ça fasse déjà 4 ans et demi, même maintenant, je pense que je suis sur cette série. Parce que je continue à prendre du plaisir, à m'amuser, à être travailler avec des gens que j'aime énormément. Ouais, franchement, quelle chance, quel privilège de faire mon métier que j'aime toute l'année, quoi. C'est un privilège pour une actrice. Et en plus, je le fais avec des gens que j'adore, donc franchement... J'ai que de la chance.
Avec un personnage que tu as le temps de développer, de montrer plusieurs facettes aussi, parce que
exactement.
Parce que bah Audrey, c'est vrai que bah c'est la meilleure amie, c'est celle à qui on a tout le temps envie de se confier, c'est tout le temps celle qui a envie d'aider les autres. C'est vraiment que c'est quelqu'un de très généreux.
Exactement, et c'est un joli personnage et c'est une femme forte, c'est une mère forte, c'est une amoureuse qui est là pour son mari aussi, pour sa famille. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle partition. Audrey, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait.
Bon, en tout cas, Demain nous appartient continue évidemment du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Les fêtes de Noël arrivent chez les Roussel et évidemment chez toutes les autres familles de la série. On va découvrir plein de nouvelles intrigues. En début d'année, il y aura plein de nouveaux personnages encore qui vont arriver pour muscler un petit peu tout ça. Il est vrai que bah, cette année, on va être un petit peu en panne, ça va nous manquer un peu, mais il n'y aura pas de Sam en début d'année, comme le rendez-vous à l'accoutumée. Comment t'as pris l'arrêt de la série, même s'il y a les trois Brestoises du coup qui est arrivé après, donc ça c'est une super nouvelle pour toi en tout cas.
Ouais, bien sûr,
ça a dû être dur de laisser Aurélie comme ça.
Ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur la fin de Sam, c'est normal, même si je m'en doutais honnêtement, même avant qu'on nous l'annonce officiellement, moi je me disais bon, on a beaucoup tiré sur la corde, sur ce personnage, sur cette arène de lycée, enfin d'école. Après, il y a un moment où les histoires elles vont trop se répéter et
ouais,
et il faut passer à autre chose, c'est
et
sûr.
Est-ce que trois changements après, de comédienne moi, c'était pas trop aussi pour le personnage
trois
principal?
Trois changements de comédienne c'était peut-être beaucoup, enfin voilà, même si je les ai toutes adorées, je les ai toutes trouvées formidables, mais c'est normal que au bout d'un moment, le public s'y retrouve pas forcément. Mais j'ai adoré cette expérience. Moi, c'est 10 ans de ma vie, Sam. Sans Sam, il y a pas DNA, il y a pas tout le reste. Donc ça a vraiment, moi, ça a changé ma vie, cette série. Donc, je suis extrêmement reconnaissante pour toujours. Sam, c'est le début de beaucoup, beaucoup de choses pour moi.
Et pour 2026, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce qu'il y a du théâtre? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent?
Pour 2026, écoute, pour le moment, moi, j'espère une suite aux Brestoises. Il y a toujours du DNA et puis les agents qui travaillent sur les castings et les choses comme ça. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, mon 2026, il a les doigts croisés. Oh. Pour que tout ce que j'aime continue.
Eh ben, on les croise pour toi, évidemment. Et tu sais, t'es toujours la bienvenue quand tu veux dans Chez ton écoute, la télé.
Merci beaucoup.
On t'embrasse très fort. On te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profites-en bien. Profites-en en famille, en tout cas. Et puis, on te fait plein de bisous, ma chère Charlotte. Et puis, on te dit à bientôt.
Moi aussi, Alain. À très bientôt.
À très vite. Et n'oubliez pas, Demain nous appartient du lundi au vendredi, 19h10 sur TF1. Les trois Brestoises, vendredi à 21h10 sur France 2. C'est Double Dose de Charlotte Gassieu vendredi.
Oui!
Allez, ne bougez pas, Mercotte et Denis Brognard sont dans les starting blocks. On revient dans un instant, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Faut que tu m'aimes, car moi toute seule j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves jolie, ma voix et mes poèmes quand même.
Faut que tu m'aimes, faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il n'y aura pas de problème, que la lune est pleine.
Pourquoi
pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment, de plus être dans le coup.
J'ai peur de plus être le même, que tu me jettes pour le premier venu, que je sois plus qu'un inconnu.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes.
Moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes.
Moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes.
C'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Tu crois plus en moi-même que moi.
Faut que tu m'aimes. Sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes. Quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne.
Faut que tu m'aimes. Quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes. Quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides. Quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que j'ai plus qu'une inconnue.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes.
Moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes.
Sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes.
Moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes.
C'est n'importe quoi.
Plus en moi-même que moi.
Pourquoi je remarque que les pouces en bas, les mauvais démons. Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon. Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super. Pourquoi j'attends toujours l'autorisation. Pourquoi y'a pas de confiance dans ma maison. Pourquoi je cherche toujours à plaire.
Dis-moi toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça.
Sinon je fais quoi? Moi j'y arrive pas. Sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Sinon je fais quoi? Moi j'y arrive pas. C'est n'importe quoi.
Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au meilleur pâtissier qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte. Et c'est pour moi, non sans émotion, que pour sa dernière dans le meilleur pâtissier, Mercotte est avec nous en ligne. Bonjour Mercotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que franchement, vos grimoires vont nous manquer, votre cuisine, votre gouaille vont nous manquer dans cette émission. Mais c'est vrai qu'on a passé des années assez incroyables. Et c'est pas Margot, notre dernière gagnante, qui va dire le contraire, parce que je crois que vous avez passé des moments extraordinaires dans cette émission.
Oui, ça a été une saison tout à fait remarquable, avec des pâtissiers qui étaient tous très intéressants, qui avaient un niveau très homogène, il y a eu du suspense jusqu'à la fin, et ça c'est rare qu'il y ait du suspense jusqu'à la fin, donc c'était une super saison pour ma dernière saison. Moi je suis ravie que ça ait été aussi positif.
Alors c'est vrai que vous avez traversé un peu toute l'histoire du meilleur pâtissier à travers les animatrices emblématiques de l'émission, et Julia Vignali, Marie Portolano et maintenant Laetitia, Laetitia Millot qui incarne avec brio en tout cas l'émission. Et c'est vrai que vous avez vu toutes ces animatrices passer que vous avez accompagnées.
Vous avez oublié Faustine.
Et Faustine,
oui, et
évidemment.
Bah oui. Oh là là, la première. Enfin.
Mais c'est vrai. Mais voilà. Non, mais elles ont toutes été extraordinaires et incarnées, en tout cas, cette émission à vos côtés et avec Cyril Lignac de main de maître. Il y a eu beaucoup, on va dire, de recettes que nous, on a pu refaire chez nous. C'était une décision mûrement réfléchie d'arrêter à ce moment-là, en tout cas, Mercotte.
Ah ben oui, oui, bien sûr, c'est moi qui ai décidé, et voilà, je suis très contente. 14 ans, c'est quand même énorme, il y a toute une génération d'enfants qui ont grandi avec moi, paraît-il. Enfin, ils me le disent, en plus, quand je les rencontre. Oui, ben, je pense qu'il faut savoir s'arrêter à temps, pas faire l'émission de trop.
Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ces 14 années? Est-ce que c'est vraiment d'accompagner ces cuisiniers, de voir des cuisiniers, des pâtissiers éclore devant vous?
Alors, ce qui m'a le plus plu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Déjà, c'est la famille du meilleur pâtissier. C'est une vraie famille. On tourne à la campagne, dans un château, dans un cadre remarquable. On a toujours les mêmes techniciens, les mêmes caméramans. Ça, déjà, c'est quelque chose de très sécurisant quelque part. On va dire que on est bien, on est en famille, on se retrouve avec joie. Et chaque année, on découvre des talents différents avec des pâtissiers. Nous, on n'appelle pas des candidats, on les appelle nos pâtissiers. Il y a des personnalités qui changent chaque fois. Il y a des attentes chez nos pâtissiers qui sont parfois différentes. Mais en tout cas, ils prennent un plaisir fou de faire cette émission qui est quand même assez stressante pour moi. J'aimerais pas être candidate, hein, je le dis tout de suite. Mais oui, c'est que des bons souvenirs, des fous rires, des moments d'émotion, enfin, que du bonheur.
Oui, puis moi, ce que j'aime dans vos avis, c'est qu'il y a toujours, évidemment, les avis, il y a les critiques, et c'est toujours constructif, jamais méchant, toujours là pour les faire progresser. C'est ça que moi, j'ai aimé chez vous, Mercotte.
Ils sont aussi là pour faire des progrès, pour qu'on voit tout au long de l'émission qu'ils progressent, d'ailleurs. S'ils écoutent bien les conseils que Cyril et moi leur donnons, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas de progrès. Et on est toujours là pour faire de la critique positive. Surtout, Cyril, il est encore plus gentil que moi. Moi, j'essaye d'être un petit peu, de dire vraiment ce que je pense sans filtre, parce que je pense que c'est un service à rendre de faire une critique positive.
Bien sûr.
Je me suis un peu adoucie au fil des années. Au début, j'étais un peu plus stricte, parce que c'est difficile d'être vrai et de dire ce qu'on pense. Donc, au début, c'était plus froid, on va dire. Et après, ben, avec l'habitude, c'est plus facile.
Oui, puis j'ai toujours trouvé avec bienveillance, malgré tout. C'est difficile de trouver cette fermeté, mais avec bienveillance.
C'est le mot que j'aime, bienveillance.
Bon, Mercotte, en tout cas, on a vu la victoire de Margot. C'était jeudi soir, hein, dans cette finale haletante du meilleur pâtissier. Si on doit revenir sur cette saison, fière, évidemment, de cette gagnante.
Alors oui, mais ce qui avait de bien aussi, c'est que le jour même de la finale, avec Cyril, on ne savait pas du tout qui c'est qui allait gagner. Hein. C'est ça qui était assez extraordinaire cette année. Bien sûr que Margot, elle a largement mérité. En plus, elle est militaire, donc elle a un mental d'acier. Je pense que c'est ce qui a vraiment contribué à ce qu'elle gagne, parce que elle, jamais elle se laisse abattre. Hein. Elle a du caractère, un fort mental, et ça, ça paye.
Et le meilleur pâtissier va livrer son ultime soirée avant les fêtes de fin d'année, donc ça sera jeudi soir. C'est votre ultime émission, Mercotte, qui sera plus fort que votre grimoire. 8 pâtissiers emblématiques de l'émission vont venir se défier à travers 6 épreuves. Alexandre, Marianella, Romain, Rennes, Jérôme, Julien, Fanny et Anne-Lou seront donc au meilleur pâtissier pour effectivement défier ce célèbre grimoire.
Ah oui, j'ai choisi des recettes emblématiques de mon grimoire. Alors certains les ont déjà vécues, d'autres pas, parce que comme on a des pâtissiers de diverses saisons, donc c'est assez intéressant. Il y en a qui avaient réussi puis qui ont raté. Enfin, c'est plein de suspense, vous allez voir. C'est très, très, très sympa.
Et donc, il y a 6 épreuves qui vont être sur cette
toile. 6 épreuves et éliminatoires. Chaque fois, il y en a un qui s'en va.
Aïe, aïe, aïe. C'est toujours compliqué, ça.
Ah oui. Oui, puis c'est pas de tout repos, parce que c'est que les épreuves de mon grimoire, c'est bien connu que ce sont les pires de l'émission. Mais ce qu'il y a de bien aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que comme ce sont des anciens candidats, ils connaissent déjà le mécanisme. Donc, on gagne un temps fou au départ. Je veux dire, eux, ils savent à quoi s'attendre quelque part, puisqu'ils ont déjà vécu l'émission. Pour moi, c'est le petit plus de ces 3 émissions en une, quoi, ces 3 épreuves.
Moi, je trouve que c'est un bel hommage aussi que vous a fait M6 de vous consacrer cette ultime émission, en tout cas après ces 14 années que vous avez données.
Absolument, oui, mais je suis très contente, c'est très bien.
Bon, l'après, Mercotte, les projets, est-ce qu'il y a des choses, malgré tout, qui sont un peu sur les rangs, des livres ou des choses comme ça pour 2026?
Ah bah bien sûr, de toute façon, bien évidemment que je vais pas m'arrêter. C'est pas parce que j'arrête le meilleur pâtissier que je vais prendre ma retraite. Donc, je continue à voyager, à être jury un petit peu partout. Oui, j'ai un livre en préparation chez Larousse pour le mois d'octobre 2026. Voilà, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas le temps de m'ennuyer.
Bon, ça c'est le principal en tout cas. On espère vous retrouver très bientôt. Mercotte, qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte, le meilleur pâtissier ultime et émission bonus, ça sera jeudi soir à 21h10 sur M6. Merci infiniment et merci pour ces 14
merci.
Années.
Merci à vous aussi, c'est très gentil.
C'est trop mignon, mais je suis obligé d'aimer, qu'est-ce que tu veux hein?
J'étais sûr que ça marcherait.
Tiens, petit coquin.
Et pour cette épreuve surprise, on va un peu pimenter le game. Vous voyez ce que je veux dire? Eh, c'est Marseille bébé ou quoi?
J'ai joint ma salle de bain à refaire, je pense que je vais t'appeler.
Mais ça, quand même, à quel moment ça s'est emballé?
J'avais pas demandé un pied de biche.
Ça y est, la Mercotte, il l'a dans la poche.
Ah, il était un charmeur, hein?
Je suis sous le charme, je trouve ça très bien.
T'es sous le charme de la tarte
ou du
de notre pâtissier?
Les deux.
Ah,
les deux.
C'est ça.
La meringue, t'es sûr que tu l'as assez fait cuire?
Je pense qu'il manquait un petit peu de cuisson.
Ah oui, je pense aussi. Quand on mange, c'est vraiment la fête du sucre. Il est un peu pouf-pouf.
Allez, on continue en tout cas nos belles idées pour ces fêtes de fin d'année. On le disait, l'occasion d'offrir un livre, c'est toujours un très beau cadeau pour ces fêtes. Et un livre de Denis Brognard qui nous emmène en voyage, rien de tel. Bonjour Denis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mes photos du bout du monde, hein, évidemment, Denis, on vous connaît pour Koh-Lanta, etc. Et c'est vrai que des paysages de bout du monde, vous avez dû en voir tellement aujourd'hui.
C'est vrai que, en fait, j'emmène les gens sur les 5 continents. Alors, pas uniquement sur mes voyages de Koh-Lanta, bien évidemment. Il y a les voyages de Koh-Lanta, mais il y a aussi des voyages personnels. Il y a aussi des voyages ayant trait à ma vie de journaliste dans le monde de l'automobile. En fait, c'est 20 ans de voyage, 20 ans de souvenirs indélébiles. C'est un peu plus de 300 photos au milieu de 20 000 que j'ai été obligé de choisir, et choisir c'est renoncer, mais c'est aussi un condensé des émotions que j'ai pu vivre en 2 décennies.
C'est vrai que parmi les émotions qu'on voit dans le livre, il y a beaucoup de photos des personnes, des habitants, des locaux aussi sur place. Il y a une belle lumière qui est faite justement sur ce qu'on appelle les autochtones.
Moi en fait, ce qui m'intéresse c'est les gens. C'est les gens dans leur cadre de vie, c'est aussi me servir de la photo pour rentrer en contact, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'est leur vie. Et c'est vrai que c'est toujours des moments d'échange. Alors je peux vous donner un exemple. Un jour je rentre dans une maison, la jeune femme est en train d'accoucher, à même le sol, etc. Ça se passe pas très bien. J'étais sur le site de Koh-Lanta à quelques heures de bateau et on a fait venir immédiatement notre médecin. Je pense que si j'étais pas venu, le bébé n'aurait pas survécu et la maman aurait eu des difficultés. Là, grâce à ce médecin, grâce à une hospitalisation rapide, grâce à une évacuation avec nos moyens, on s'est retrouvé avec une petite fille qui est née, une maman qui est restée en bonne santé et une petite fille qui a été prénommée Chance en cambodgien. Donc voilà, ce sont aussi des rencontres comme ça qui m'ont animé, qui m'animent au quotidien et qui me permettent de m'évader des tournages, qui me permettent aussi de temps en temps d'avoir une activité solitaire. Parce que la photo pour moi c'est aussi être seul, parce que en étant seul, j'ai plus de possibilités à aller vers les gens, il y a moins d'appréhension et plus de capacité à partager.
Alors, il est vrai que Denis, toutes ces photos, il a dû y avoir un choix à faire. Comment on choisit? On disait, choisir, c'est renoncer. Ouais. Et comment on renonce à certaines?
C'est pas facile, parce que à chaque fois, je me disais, ah, mais celle-là, elle est bien, celle-là, elle est super, celle-là, oui, celle-là, non. Il y a certaines évidences. Il y a les photos où vous dites, celle-là, c'est à coup sûr, elle est dedans. Celle-là, à coup sûr, on l'oublie. Et puis, vous avez au milieu cette espèce de ventre.
Entre deux.
Voilà, qui est pas facile. Et il faut choisir. Et c'est là que mon éditeur, Guillaume Robert, que celui qui m'a aidé et qui est un de mes amis et qui m'a mis vraiment à cette passion de la photo, Alain Issoc, m'ont vachement aidé en me disant, non, celle-là, elle est plus originale et elle est plus authentique. Donc voilà, j'ai essayé de faire avec mon cœur, avec mes sentiments, avec mes souvenirs et avec, évidemment, l'aide de ceux qui me sont proches, de ceux en qui j'ai confiance pour finalement, prendre ces 350 photos. Mais, j'aurais pu en mettre le double sans hésiter avec d'autres photos qui me tiennent autant à cœur.
C'est quoi les endroits qui vous ont le plus marqué, Denis? Dans les endroits, en tout cas, que vous avez pu photographier, là.
J'aime pas tellement faire de hiérarchie dans les gens, dans les endroits, etc. Moi, ce qui m'intéresse surtout...
Il y a des fois des endroits où on dit on n'en revient pas indemne. Je parle plutôt de cela, peut-être, justement.
Ouais. Je reviens pas indemne des Fidji. Parce que c'est un endroit rare, parce que c'est un endroit exceptionnel. Je reviens pas indemne du Cambodge, parce que c'est peut-être l'endroit où j'ai eu les rapports humains les plus forts. Je reviens pas indemne des Philippines, où j'ai passé au total plus d'un an de ma vie, et où le contact avec la population, que ce soit les gens avec qui j'ai travaillé ou les gens que j'ai rencontrés dans des zones très reculées, a été exceptionnel. J'ai envie de vous dire que les endroits que je retiens qui m'ont marqué à vie sont des endroits où j'ai senti une authenticité totale, parce que ce sont des endroits où il n'y a pas de tourisme de masse, où finalement je me suis retrouvé seul comme touriste. Et vous savez, comme je suis très grand, que j'ai les cheveux clairs, les gens pensent toujours que je suis américain. Une fois que j'aurais dit que je suis français, la vie est différente, enfin tout est un peu différent. Mais je vous dirais, allez, les Fidji, le Cambodge et les Philippines, mais encore une fois, loin des sentiers battus.
Des voyages qui changent profondément la vision de la vie et des choses.
Je me souviens que mon grand-père me disait, et mon père pareil, les voyages forment la jeunesse, en paraphrasant Montaigne, mais c'est tellement vrai. Et j'incite mes enfants à partir en voyage. Vous voyez, mon fils part plusieurs mois en Australie et je ne fais que l'encourager. Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans. Je me suis rattrapé depuis. Alors, c'est vrai que d'un point de vue écologique, on dit un peu partout qu'il est important de mesurer ses voyages, de ne pas voyager n'importe comment, de ne pas partir pour 2 jours. Mais j'incite quand même les gens à voyager. Parce que voyager, c'est s'ouvrir l'esprit. Parce que voyager, c'est découvrir d'autres cultures. Parce que voyager, c'est aussi, je pense, être moins égoïste et plus ouvert sur le monde. Donc, c'est indispensable. Et n'en déplaise à ceux qui estiment qu'il faut prendre l'avion deux fois dans sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'imaginer restreindre les voyages de nos enfants et de nos petits-enfants, il faut plutôt réfléchir plus vite qu'aujourd'hui aux moyens de locomotion et de les rendre beaucoup plus propres, notamment les moyens aériens. Voilà ce que j'ai envie de dire, mais j'ai surtout envie d'inviter les gens de 7 à 77 ans, comme pour Tintin, à foncer et à voyager.
C'est sûr, en tout cas, ça va vous donner envie de voyager. Ça s'appelle « Mes photos du bout du monde ». C'est chez Flammarion. Vous pouvez découvrir ce nouveau livre de Denis Brognard pour ses fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est une très, très belle idée cadeau. Denis, un petit mot sur Koh-Lanta. Alors, il y a une petite pause là, pour le coup, parce que le rythme était effréné. Hein. C'était deux saisons par an. L'émission était à l'antenne quasiment 8 mois sur l'année, sur 12. Ça pouvait être carrément épuisant, mais aussi bien pour les candidats que pour l'animateur. À force, est-ce que là, ça fait du bien de faire une petite pause et d'en faire qu'un là?
Je pense que ça fait du bien aussi pour les téléspectateurs parce que c'est bien de marquer une pause. Alors on a des années à deux saisons, des années à une saison. Mais vous savez, ce qui est très étonnant et paradoxal, c'est quand on a deux saisons, les gens me disent « Oh là, vous n'avez pas peur justement d'épuiser le concept, tout ça ?» Et puis quand vous n'en faites qu'une, les gens disent « Mais ah bon, il n'y a pas de Koh-Lanta à l'automne ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Non mais attendez Denis, alors que vous allez tourner la prochaine, pourquoi vous attendez l'année 2026 ?» Voilà, je pense que Koh-Lanta est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes des Français. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les gens fassent peut-être une petite pause. Mais à un moment, on est là pour leur dire qu'on a tourné la prochaine saison avec de belles nouveautés et qu'ils ne seront pas déçus. Je suis en plein montage, en plein mixage. Je peux vous dire qu'il y a du bon, du lourd qui arrive.
Et ça va arriver début 2026 en tout cas. Merci beaucoup Denis d'avoir été avec nous. Belle fête de fin d'année.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous recevrons l'équipe de la pire mère au monde, Pierre Mazingarbe ou encore Louise Bourgoin et Muriel Robin seront nos invités exceptionnels. Et la Philippe qui fait ses adieux à la série Plus belle la vie, encore plus belle, sera également notre invité pour revenir sur son départ.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.